Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain.
Nom de Zeus!
Le coup de foudre, c'est ça.
De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
À vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Depuis la fin de l'été, depuis qu'octobre a filoché ses ciels incertains au-dessus de la métropole nantaise, je me pose une question. À quel point est-on esclave du climat? Parce qu'il faut bien l'avouer, dans nos quotidiens rythmés par tout un tas de choses à dire et à ne pas dire, de lieux communs, d'expressions convenues, de blagues toutes faites, il y a cette sorte de fatalité. Novembre arrive, le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. Merci Charles. Et la maraîchère vous dit en frottant ses mitaines « Oh, on serait bien resté sous la couette ». Nous voici partant courbés à l'aube vers un travail pas toujours marrant, en se disant « Tiens, j'aurais peut-être dû prendre une écharpe ». Nous voilà 3 jours plus tard, éternuant et crachant comme un connard, preuve que oui, on aurait dû. Et nous voilà 2 semaines plus tard, virés de notre taf pour une raison parfaitement abusive, maudissant le capitalisme, le poing brandi vers les nuages gorgés d'eau. Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Pour moi, fringant trentenaire, ayant quitté il y a déjà pas mal d'années les catacombes de la dépression, il y a quelque chose d'agaçant. J'ai conscience qu'on devrait être son propre soleil, sa propre foudre. Il faut y aller, on en veut. C'est pas une saloperie de vent du nord ou quelques gouttes de pluie glacées dans le cou qui vont y changer grand-chose. Et pourtant, il y a dans les arbres orange et or, dans les ciels aux moutons électriques, dans le jour qui décline un peu plus tôt qu'hier, la lente escalade d'une mélancolie. Oui, nous allons vers l'hiver où l'épure de la neige molletonnera les paysages. Comment avancerons-nous? Réponse du jour, avec une pelle et de l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes en équipe réduite dans le studio, puisque Brian, notre chroniqueur globe-trotteur de la saison 1, s'en est allé vers d'autres horizons qui l'empêchent de continuer dans l'émission. On lui rendra hommage tout à l'heure en repassant une de ses chroniques. Quant à Aurélie, notre chroniqueuse, elle n'a pas pu être en studio physiquement, mais vous l'entendrez tout à l'heure nous parler d'oisiveté. Merci Aurélie. Et quant à la réalisation, c'est Clément qui s'en occupe aujourd'hui. Salut Clément, merci d'être là.
Merci à toi.
Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Olivier Texier, dessinateur de BD et performeur. Bienvenue, Olivier.
Merci beaucoup. Bienvenue également à vous.
Merci. Pour te présenter en 2 mots, tu es né à Nantes, où tu as passé un bac lettres et arts plastiques, avant de continuer en fac de lettres option communication. Et tu as enchaîné sur le métier d'infographiste en mairie, tout en continuant à exercer ta créativité à côté par l'édition de fanzines, des performances scéniques et une pléthore de collaborations. Tu valides ?
Tout à fait.
Merveilleux. Mais avant d'entamer les albums radiophoniques, je te propose un croquis supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prêt ?
Je suis prêt.
Vitesse ou lenteur ?
Lenteur.
Sucré ou salé ?
Salé.
Dessin papier ou tablette ?
Dessin papier.
Vote ou abstention ?
Vote.
Ville ou campagne ?
Les deux.
Culture ou contre-culture ?
Contre-culture.
Thé ou café ?
Café.
Penser ou vivre ?
Vivre.
Chat ou chien ?
Chat.
Bien fait ou mal fait ?
Mal fait.
Je le savais, c'est marrant. Organisé ou bordélique ?
Très organisé.
D'accord. Passé ou futur ?
Présent, évidemment.
Ben oui, ben oui. Je suis bien d'accord. Et on commence tout de suite l'interview par la fameuse première question. Moi, j'aime bien commencer dans l'enfance. Hein. C'est souvent là que les choses viennent. Ton attrait pour le dessin et la bande dessinée, il remonte à loin dans ta vie. Est-ce que tu étais le genre d'enfant à toujours griffonner dans les marges à l'école ou à la maison ?
Ça, mais ouais, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup griffonné en cours. Je les ai gardés pendant très longtemps, toutes mes pages de cours, voilà, de tout l'école, collège, lycée. Puis après, je pense que j'ai fini par les jeter. Puis surtout que le crayon plume, l'encre, elle tient pas très bien, l'encre bleue de l'époque, ça tenait pas très très bien. Donc j'ai fini par jeter ça, mais j'avais quand même de quoi faire plusieurs bandes dessinées avec toutes ces petites cases, ces petites marges remplies, voilà, en cours. Ouais.
D'accord. Mais ça, c'est vrai que c'est triste un peu en fait ce que tu dis, c'est que tous ces petits dessins que tu faisais à l'époque, qu'est-ce qui t'en reste en fait? Y a quelques vestiges ou il n'y a vraiment plus rien
Alors, j'avais gardé un petit peu, j'avais entrepris de les découper à un moment donné dans ma jeunesse. Et en fait, je les avais collés après dans un grand cahier, ce qui était complètement stupide, parce qu'en plus, avec la colle, ça avait fait partir l'encre un peu plus vite encore. Donc là, il ne doit plus rester grand-chose à part le souvenir que j'en ai.
D'accord.
Et si un de mes grands souvenirs de dessin quand j'étais petit, c'est que j'avais un tout petit album de coloriage publicitaire. Je crois que c'était pour des Big Jim ou des G.I. Joe à l'époque. Et il y a une photo de moi où j'avais peut-être 4 ans en train de colorier ça, et j'ai un souvenir très précis de cette scène où je me revois encore colorier cet album quand j'étais
D'accord.
vraiment très très petit, et j'ai une photo de ce moment-là, donc je suis assez content. J'ai perdu l'album depuis, mais je le
D'accord.
vois en photo, et voilà.
D'accord, ça marche. Et après ton bac lettres et arts plastiques, tu souhaitais d'abord être scénariste de BD. On en parlait un petit peu là avant l'émission. Et moi, ma question, c'était, est-ce que donc ton intérêt premier portait d'abord sur le texte, du coup, plutôt que le dessin?
Alors moi, en fait, quand j'étais ado, pré-ado, j'avais vraiment l'envie de devenir quelqu'un dans la bande dessinée. Voilà, de devenir un auteur de BD, c'était mon rêve. Et je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre. Je ne savais pas comment on faisait pour être auteur de BD. Il n'y avait pas d'école à l'époque. Et j'avais lu dans une des revues auxquelles j'étais abonné que, à un moment donné, j'avais lu qu'il y avait plus de dessinateurs que de scénaristes dans le milieu de la bande dessinée, et que ça pouvait poser problème. Et je m'étais dit, ah ben là, je vais être stratégique, je vais devenir scénariste de bande dessinée. Comme ça, je vais mettre le pied dans la porte. Puis une fois que je serai installé dans la bande dessinée, je pourrai enfin faire ce qui me plaît, c'est-à-dire le dessin. Mais j'ai eu cette idée-là qui m'a poursuivi après, pendant mes études. Sur mon orientation, a pas été très 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 calculée, mais j'avais cette idée-là. Donc j'ai fait la fac, enfin j'ai fait le bac à 3 avec une option art plastique. Et puis après, je suis parti sur la fac de lettres de Nantes parce que j'avais cette idée-là de voilà me coltiner à l'écriture et puis à l'analyse de texte pour devenir scénariste, qui était un petit peu idiot, un peu stupide, mais
Donc
c'était
c'était
mon
une vision
parcours.
stratégique en fait pour toi,
Voilà,
d'une façon de
c'était.
rentrer dans cet univers et après on verra.
Ouais,
D'accord, très bien.
exactement.
Et pendant la fac, après ton bac, donc tu as auto-édité un grand nombre de fanzines. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui connaissent pas, un fanzine, c'est une publication indépendante réalisée par des passionnés pour d'autres passionnés. Est-ce que c'est la liberté totale qui te plaisait dans ce format-là?
Déjà, ouais, il y avait vraiment cette idée de pouvoir produire des livres, parce que je suis très attaché à l'objet livre, à l'objet papier, au magazine. C'est quelque chose qui est très, très, très fort pour moi. Et le fanzine, quand j'ai découvert ça, finalement, c'était la possibilité de s'auto-éditer avec 3 francs 6 sous, avec quelques photocopies et puis une bonne agrafeuse. Et j'en ai fait, j'avais une frénésie du dessin à l'époque, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de fanzines, des fois assez épais, des fois ça pouvait faire plusieurs centaines de pages. Alors j'avais une grosse agrafeuse pour agrafer, j'avais toute une technique pour agrafer plusieurs centaines de pages d'un seul coup, et je me faisais des petits livres que je diffusais après un peu à la va comme je te pousse. Il n'y avait pas internet, donc j'emmenais mes exemplaires dans les quelques librairies de bande dessinée à Nantes où je les déposais, je les mettais en dépôt vente, et puis ça se vendait pas forcément, puis après restait à traîner dans des bacs. Et puis je les envoyais aussi beaucoup, je les envoyais à la presse spécialisée, à des journalistes, enfin voilà, j'essayais de c'était une manière pour moi de diffuser le travail, et puis une manière de faire des livres, voilà, quelque chose qui m'a toujours passionné, cette idée de faire des livres. Donc c'était, ouais.
Tu prends vraiment ta passion sous le bras et puis tu fais, tu produis, tu vas voir les gens. Donc tu étais déjà un bon communicant finalement.
Ouais. Et puis, ce que j'aimais bien, c'était le moment de fabrication, d'être chez soi le soir, trier toutes les photocopies, les découper, les massicoter, les agrafer. Et il y avait quelque chose qui continue voilà, de me plaire. J'en fais plus maintenant, mais dans la manipulation et la
Très, très pratique,
fabrication à soi-même
manuel.
d'un livre, ouais.
Je comprends. Et l'aboutissement un petit peu de ça, c'est en 97 où tu crées un fanzine avec un pote qui s'appelle Sylvain Chantal, le fanzine s'appelait le Transborder. Et vous aviez un tirage, tu m'as dit, à 5 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un fanzine, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet?
Alors avec Sylvain, donc, qui était un vieux copain, qu'on s'est rencontré au lycée, donc on a fait beaucoup de fanzines tous les deux, puis avec d'autres aussi, notamment petite fanzine qui s'appelait Roger le chat à l'époque, qui était diffusée dans des contenants. On avait mis ça dans une boîte de conserve, dans une petite boîte avec une bouteille de vin. Enfin, à chaque fois, on innovait sur le contenant. Et avec ce bon ami Sylvain, on s'est un peu perdu de vue après quand j'ai fait la fac. Et on s'est retrouvé un peu par hasard à Nantes. Et on s'est réunis autour de la même idée qu'on avait envie de continuer à faire des fanzines, mais avec les études qu'on avait fait, lui il avait fait Sciences Com à Nantes, puis moi j'ai fait la fac de lettres, mais j'avais l'option communication aussi, et on avait tous les deux une approche un peu plus professionnelle. On avait touché au logiciel Express notamment de mise en page, et puis on avait quelques notions aussi pour vendre les encarts publicitaires. Enfin, on avait fait des études dans la communication, donc on a mis ça au service de notre passion du fanzine, et on s'est mis à éditer donc ce projet assez fou du Transborder qui était un mensuel qui était diffusé gratuitement dans tous les bars de la ville de Nantes, et on faisait appel pour le remplir à des artistes, des copains, donc des écrivains, des dessinateurs, des poètes, poétesses, voilà, plein d'auteurs, d'autrices de nos connaissances, qui étaient absolument enchantés d'être édités à 5000 exemplaires, parce qu'il y a même des gens, des écrivains qui avaient pignon sur rue et qui étaient édités par des grandes maisons parisiennes, mais qui n'obteniaient pas les 5000 exemplaires. Donc pour eux, c'était exceptionnel. Et on a fait ça pendant plusieurs saisons. Il y a eu vraiment quelques dizaines de numéros. Après, on a passé la main, puis le support est mort de sa belle mort, mais c'était une belle expérience. Donc il y avait quelques encarts publicitaires pour les centres culturels autour de Nantes, quoi, le Pianoctel à Bouguenay ou à Rosay ou à Orvault. Et puis à l'intérieur, c'était une création à chaque fois. 16 pages de création artistique voilà, nantaise et originale.
Un grand vivier créatif. Ah ouais, c'est un très très beau projet. Tu m'as aussi parlé de tes publications dans des revues comme Ferraille et Psychopathe, que j'affectionne bien d'ailleurs, Psychopathe, j'en ai lu pas mal. Et tu m'as parlé de dessins absurdes, bizarres, crétins ou tordu. Est-ce que c'est le genre d'univers que tu aimes croquer?
Ouais, ça c'est vraiment mon truc. Tout ce qui est, on va dire, proche de l'humour noir, proche vraiment l'humour absurde, les choses un peu, même un peu dérangeantes des fois. Voilà, c'est vraiment ma marque de fabrique, cet univers-là. Et que ce soit pour le dessin, un peu dessin de presse, des fois avec un personnage et puis une légende. Et puis petit à petit, j'en suis venu à faire des strips, donc des formes assez courtes de bandes dessinées en 3 ou 4 cases, où voilà, c'est un festival d'absurdité et de bêtises, avec à chaque fois, j'essaie quand même d'avoir un petit fond, d'avoir quelque chose d'un peu piquant, que ça ne soit pas non plus complètement absurde, que ça soit rattaché un peu à une critique sociale ou quelque chose comme ça. Ouais.
Oui, je comprends. On reparlera d'ailleurs de tes strips, notamment de 4 cases, tout à l'heure. Et puis, petit à petit, tu rencontres plus d'auteurs et d'autrices, avec des encouragements. Tu m'as cité des noms comme Cyril Pedrosa, Hervé Tancrel ou Johan. Et tes dessins rencontrent un certain succès. C'est un milieu bienveillant, le monde de la bande dessinée nantaise?
Ah oui, très. Entre auteurs, entre auteuristes, il y a vraiment quelque chose de très, très sympathique. Il n'y a pas de concurrence. Et moi, j'étais vraiment enchanté de rencontrer tous ces grands auteurs, autrice nantais et nantaise, voilà, pour moi, des figures comme Eric Sago par exemple, qui est une figure locale, qui a été très, là, sa rencontre a été très importante pour moi. Et c'est vrai que pour moi, à un moment donné, je me suis trouvé avec cette envie et cette passion de la bande dessinée à Nantes, et à rencontrer des gens voilà, qui étaient aussi des auteurs beaucoup plus confirmés que moi et tout aussi passionnés, et ça m'a vraiment porté vers la création et vers l'édition, et j'ai pu avancer grâce à ça, grâce à ces rencontres et puis à leur regard vraiment bienveillant sur mon travail. Et ça, c'était pour moi une grande chance de pouvoir rencontrer tous ces gens-là qui m'ont talentueux et qui m'ont vraiment porté et donné envie de faire, quoi, et de me dire que c'était possible.
D'accord. Donc oui, beaucoup de soutien, et comme tu disais, pas un milieu compétitif où on se tient dans les pattes.
Non, c'est tout l'inverse. On se refile les plans, même enfin, si quelqu'un ne peut pas faire une illustration ou travailler avec tel éditeur, on peut très facilement se refiler les plans, ou travailler ensemble en collaboration sur des projets. Les auteurs que tu as cités, puis beaucoup d'autres, j'ai forcément eu à un moment donné une collaboration d'une manière ou d'une autre avec eux.
Oui, on ne grandit pas tout seul, effectivement. Et effectivement, ça, Eric Sago, il est chantenaisien, je crois, parce que je l'ai...
Maintenant, ouais. Oui.
Je l'ai rencontré plusieurs fois, effectivement. Ouais. Il est très sympathique. On va se faire déjà une petite pause musicale. Tu nous as choisi un morceau d'un artiste qui s'appelle Bertrand Belin. Le morceau s'appelle Que dalle tout. C'est un artiste que tu affectionnes, que tu as découvert récemment
Alors, tout à fait. Je l'ai... Alors, pas très musique, j'écoute pas beaucoup de musique. J'étais bien en peine de trouver un album récent quand on m'a proposé de proposer un morceau. Et je me suis souvenu, donc j'ai découvert dans un film que j'avais adoré, le film Tralala des frères Larrieux, qui est une sorte, on peut dire, de film musical ou même de comédie musicale, mais vraiment avec Mathieu Malry, qui est un film qui a été très, très bouleversant pour moi. Et Bertrand Belin, il joue un rôle, il joue très bien son rôle, il a été salué pour sa prestation. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'en suis venu à découvrir ce chanteur qui passe bientôt à Nantes d'ailleurs.
D'accord.
Et voilà, j'ai choisi ce morceau-là, puis une petite dédicace à une auditrice qui se reconnaîtra.
Super, bon, on s'écoute ça tout de suite. Il est 13h19 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Je vais y arriver. On reçoit Olivier Texier aujourd'hui, dessinateur de BD et performeur. Et c'est la seconde partie de l'interview. Olivier, quand tu commences à travailler avec des éditeurs plus importants comme Delcourt ou Dargaud, comment tu vis ça en tant qu'artiste ? Est-ce que c'est un peu la grosse trouille ou c'est plutôt le sentiment d'être arrivé où tu voulais être ?
Non, c'était pas la trouille. J'étais content d'avoir réussi mon objectif de petit garçon, d'être un auteur de BD, d'être édité, de pouvoir faire ce que je veux. Et pour moi, c'était vraiment voilà, l'aboutissement d'un rêve que j'avais projeté et qui se réalisait. Et non, c'était vraiment très chouette. Surtout que j'ai eu la chance quand même d'avoir à chaque fois de pouvoir travailler sur des projets en toute liberté. C'est-à-dire que j'ai jamais ou très très peu fait de concessions en me disant ben voilà, je dessine cet album ou cette page, mais ça me fait pas plaisir et vivement que ce soit fini. Ça m'est arrivé, mais assez peu. Donc quand même, pour moi, c'était vraiment une belle. Ouais.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander en plus que des fois quand tu changes de entre guillemets de braquet comme ça, que tu passes de petites publications indépendantes, peu lues, etc., à des gros éditeurs, parfois on demande effectivement de sacrifier certaines choses. Donc c'est intéressant et positif d'entendre ça. Et à un moment dans ta vie aussi, tu goûtes à la scène et tu aimes ça, à l'occasion de la création de la Fédération internationale de catch de dessin à moustache nantais. Que désigne cette appellation rocambolesque?
Alors ça, donc c'était une bande de copains. Donc on s'était réunis dans un bar qui n'existe plus. Enfin, le lieu existe, mais le nom a changé, qui s'appelait Les Trois Bécasses, pas très loin d'ici, en plein centre de Nantes. Sous l'impulsion, on était une dizaine d'amis, sous l'impulsion d'un copain qui a aussi été un scénariste pour moi de bande dessinée. On a eu plusieurs projets de bande dessinée ensemble au Requin Marteau, X90. Et sous son impulsion, on se réunit dans ce bar. Et l'idée, c'était, on se disait, on est quelques dessinateurs, donc c'était que des dessinateurs. On va faire une soirée. Voilà, le bar nous propose d'occuper une soirée un peu délire, un peu faire un show autour du dessin. On savait pas trop. Et puis voilà, on a réfléchi tous ensemble au temps d'une soirée. Et puis ça a émergé l'idée de faire une soirée de catch de dessin, c'est-à-dire s'affronter entre dessinateurs sur des tableaux sur des grandes pages blanches, quoi, des tableaux paperboard avec un feutre. Et le concept a pris. La première soirée a été absolument démente. Le bar était plein à craquer, ça a volé dans tous les sens. Chaque dessinateur avait fait un costume tout seul dans son coin de catcheur et les affrontements étaient vraiment bariolés. On se roulait par terre, on se donnait des coups de feutre. Enfin, c'était vraiment fabuleux et ça a pris et ça a duré. Et ça dure encore aujourd'hui maintenant avec une toute autre équipe. Il y a quelques dessinateurs qui sont restés depuis le début, mais pas beaucoup. Et on peut encore assister à des combats de catch de dessin à Nantes régulièrement. Et c'est toujours la même folie. Donc je suis content là aussi d'avoir été à la première réunion, puis d'avoir vu ce monstre se créer et continuer à vivre avec d'autres personnes et de manière toujours aussi enthousiasmante. Et
Cette
ça,
créature que vous avez.
Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot.
D'accord. J'aime beaucoup l'idée du pugilat dessinatoire là, à coup de feutre. Mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir quand même une idée, donc vous avez je sais pas, une grande feuille ou un grand tableau et quelqu'un dessine quelque chose et l'autre dessine autre chose qui vient affronter le
En
premier dessin.
fait, c'est des affrontements. Il y a deux grands rouleaux de papier. Donc il y a deux équipes à chaque fois et les deux équipes s'affrontent sur un sujet commun. Donc on demande au public de donner un sujet et puis il y a 10 minutes et puis tous les coups sont permis. Donc on peut faire un beau dessin ou on peut complètement essayer de saccager le dessin de l'autre. Donc
D'accord.
Il y a vraiment pas beaucoup de règles à respecter.
D'accord.
Et pour le public, c'est sympa de voir des dessinateurs dessiner en direct sur des sujets qui ne sont pas évidents. C'est vrai que quand on n'est pas dessinateur, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant. Et puis, en plus, il y a toute la grandiloquence du catch avec les intros des catcheurs en musique, les coups bas. Il y a toujours un arbitre. Donc, à un moment donné, j'ai été le premier grand champion, toute première soirée.
En 2006.
Voilà. Et puis après, je suis devenu arbitre pendant 2, 3 ans. Voilà, il y a l'arbitre aussi qui est là, qui mène le jeu, qui harangue la foule.
D'accord, ok. Mais je comprends, on passe souvent comme ça, de performeur à arbitre parce qu'on a pris trop de coups de feutre. Enfin, je pense
Voilà,
que
bah
le
oui,
corps
là.
souffre et on ne peut plus, quoi.
Exactement, mon
Bah
corps
oui.
était meurtri de feutre et.
Je comprends. Et donc, c'est à cette occasion que tu endosses la casquette de performeur scénique, c'est ça? Tu m'as cité des noms comme Michou Lassavatte ou Monsieur Moulbit. Et ça ressemble à quoi une prestation de Michou Lassavatte, par exemple?
Alors, Michou Lassavatte, c'est quand j'étais catcheur, mais donc avec le catch, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise sur scène et que j'avais un grand plaisir d'être devant un public. Et plus le public était grand, et plus mon plaisir était grand. On
D'accord.
a fait la Cité des Congrès, on a fait Lieu Unique, enfin, on s'est produit devant des grandes assemblées. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça et que j'avais des choses à dire. Donc, J'ai eu plein de formules différentes, mais l'idée, la dernière formule en date, c'était donc plus en Monsieur Girafe, donc un costume de girafe, où là, je faisais ce que j'appelais une speed conferencing sur la manière de dessiner vite. Donc, c'était une fausse conférence de 15-20 minutes où je démontre par A plus B qu'en fait, plus on dessine vite, plus on est rentable. Alors, il y a un côté parodique hein, du monde marchand, mais j'apprends aux gens qui sont là, comment on fait pour dessiner vite, pour être le plus rentable possible. Et puis surtout, il y avait cette idée aussi de dessiner des strips en direct avec le public. J'avais un peu la même idée d'échanger. Et je prenais des thèmes dans le public et puis je dessinais un strip de 4 cases sans filet, sans avoir travaillé avant, de manière complètement improvisée. Alors des fois, c'était raté. Et puis des fois, il y a des petits éclairs de génie qui sortent tout seuls grâce au public aussi.
D'accord. Donc toujours beaucoup de cette recherche forte, forte chez toi de la chaleur humaine, du contact humain.
J'ai appris ça. C'est vrai que le travail d'auteur de BD, c'est quelque chose qui est très solitaire. On est beaucoup sur sa table à dessin, seul, et on se lâche en de rares occasions dans les festivals de bande dessinée où là, tous les auteurs, autrices sont lâchés au même moment et ça vire à l'orgie. Mais sinon, c'est un peu un travail de moine d'être auteur de BD. Et pour moi, dériver un peu plus vers la scène et le dessin en live, en direct, pour moi, c'était vraiment quelque chose aussi très important et que j'ai découvert vraiment de manière totalement par hasard.
Petit à petit, quoi, dans ta vie, en grandissant, tu t'es rendu compte de ça. Oui. Et en 2020, tu publies un album qui s'appelle « Demain est un autre jour de merde », constitué de ta série de strips 4 cases qui paraissaient dans Fluide Glacial. Mmh. Est-ce que, comme un Franquin ou un Gottlieb avant toi, il y a une vraie catharsis dans tes dessins ?
Je ne sais pas si je parlerai de catharsis, mais je ne sais pas si ça me libère ou je suis très content quand je trouve un gag parce que moi, j'ai une manière de dessiner qui est vraiment dans l'improvisation. Je travaille très très peu mes scénarios, je réfléchis très très peu à ce que je vais dessiner. Je prends une feuille, je fais une case et puis je me lance directement sans avoir réfléchi. Puis une fois que la première case est dessinée, après je commence à réfléchir à la deuxième et puis éventuellement à la troisième et puis à la chute en quatrième case. Et vraiment pour moi il y a ce truc de quand on arrive à la dernière case et qu'on a créé un gag ou on a créé quelque chose qui va faire... Voilà, qui fait rire ou qui va avoir de l'impact sur le public. Pour moi, c'est réussi. Et là, il y a une espèce de petite joie, comme un shoot d'adrénaline ou de drogue, et qui est très enthousiasmant, puis qu'on peut reproduire à refaire d'autres strips après. Mais j'ai pas l'impression d'expulser une noirceur ou de me libérer de quelque chose dans mon travail de dessin.
D'accord. Mais donc, ça veut dire que tu es plutôt un dessinateur du jaillissement, j'allais dire plutôt de la foudre, justement, comme ça va bien avec l'émission. mais est-ce que du coup, ça veut dire que pour toi, faire un album long ou qui ne serait pas des strips, c'est plutôt difficile ? C'est quelque chose que tu aimes moins comme exercice ?
Alors, c'est pas du tout le même exercice. J'en ai fait assez peu des grandes histoires. J'ai dû en faire deux ou trois. C'est sympa, mais ouais, il n'y a pas le côté spontanéité et il n'y a pas la forme brève que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai réussi tant bien que mal à boucler mes albums et puis à faire qu'ils soient, je pense, j'ai eu des bons retours, hein, intéressants à lire, mais c'est pas, les grandes sagas, c'est pas mon rythme. Moi, c'est vraiment la formule brève et voire même le dessin unique avec une légende. J'affectionne aussi beaucoup le dessin de presse et j'admire les grands dessinateurs de presse qui peuvent, avec un dessin très minimaliste et puis une phrase, on arrive à parler, à évoquer un sujet très complexe et à être juste et vrai sur un sujet très complexe avec une grande économie de moyens.
Bien sûr, oui, mais c'est quelque chose que je comprends assez intimement puisque moi j'écris de la poésie et la poésie c'est la même chose. Quoi. C'est cet amour du condensé, de l'efficacité en peu de mots et toi c'est l'efficacité en peu de traits finalement.
Exactement.
Et quels sont les projets dans tes tiroirs finalement ? Parce que tu m'as évoqué donc, le festival BD de Colomiers fin novembre, là cette année, et celui de Bastia en 2023 aussi.
Voilà, c'est ça. Donc à Colomiers, ça sera pour une intervention scénique. Je vais faire quelque chose autour de l'effondrement, l'écologie, avec d'autres auteuristes qui vont aussi parler du sujet en lien avec leur bande dessinée. Et puis à Bastia, c'est une exposition. Alors je suis vraiment très content d'avoir été invité. C'est une exposition sur l'absurde dans la bande dessinée. Et ils ont tout de suite pensé à moi. C'est une exposition collective. Hein. Je serais loin d'être le seul. Mais c'est un festival qui a une très bonne réputation parmi les copains et copines. Et c'est vrai que je suis content d'être invité. Et je pense que l'exposition va vraiment être de qualité.
Et c'est quoi le nom, par exemple, tout de suite qui te vient quand tu penses à, je sais pas, des dessinateurs de l'absurde qui t'ont inspiré en bande dessinée?
Alors moi j'ai beaucoup aimé des gens, alors c'est pas des gens connus, hein. Chez Cornelius, un dessinateur américain qui s'appelle Kaz, Kaz, et qui fait des strips en quatre cases, justement, ça rime. Et pour moi, qui est quelqu'un qui a un travail fabuleux qu'on trouve chez Cornelius. Et il y a un japonais aussi qui a été très très peu traduit. Alors, c'est un peu bizarre parce que du coup je lis pas le japonais, mais j'ai des CBD à lui en japonais et j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais j'ai peut-être une dizaine de strips qui ont été traduits. C'est Yuzaku Anakuma. Et qui fait des strips, c'est voilà, complètement délirant, avec là aussi une économie très, un minimalisme qui me sidère, qui m'enchante à chaque fois. Mais voilà, j'ai pas eu beaucoup la chance de le lire en français, donc je le lis en japonais, et puis je m'imagine un peu ce qu'il me raconte.
Très bien. Et le festival de Colomiers, du coup, c'est
Et le festival de Colomiers, bah c'est voilà, ça sera la, entre guillemets, la performance sur l'effondrement, avec d'autres auteurs et autrices qui vont parler de ça en lien avec leur travail, comment ils parlent d'écologie et d'effondrement dans leur travail.
Ah oui,
Et puis
d'accord.
moi, je vais un petit peu résumer tout ce qu'ils vont dire. Je vais faire une petite pirouette à la fin, une espèce de fausse conférence où je vais appuyer un petit peu là où ça fait mal
D'accord.
sur le sujet.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Texier, d'être venu nous voir dans Coup de Foudre aujourd'hui.
Merci à vous, merci beaucoup.
C'était un plaisir de te recevoir. Et puis, on va enchaîner tout de suite sur un petit coup de cœur personnel. C'est en fait un YouTuber qui s'appelle Josh Turner, qui fait de la guitare, qui est compositeur. Il a fait un duo avec une autre artiste qui s'appelle Alison Young. La chanson s'appelle Where in Time et c'est un petit bonbon, voilà, de douceur tout de suite sur Prune.
Trying to find some comfort in the lacework and the ramekins, I lose myself amid the dusty shelves. I had merely wandered in to stop myself from wondering what you're up to, and it's here that I conclude that I don't go for nostalgia. Romanticize a past that needed none. I don't go for nostalgia or the way your skin was warmed under the sun. Giving all my hours away to golden early autumn days was just a dream. And I've woken up, it seems. Quilted lawns and open arms, your painted smile and dime store charms, they stay behind. And looking back, I find that I don't go for nostalgia. Romanticize a past that needed none. I don't go for nostalgia. The past is where you told me we were done. Where in time am I breathe the modern sky with every breath. Just not the present yet.
Il est 13h34 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle d'Aurélie.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection ?
Buller, rêvasser, feignanter, paresser, bailler aux corneilles, se tourner les pouces. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'oisiveté et de mon lieu préféré pour pratiquer cet art de ne rien faire. L'oisiveté décrivait autrefois le quotidien des privilégiés qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Aujourd'hui, alors que nos vies sont remplies à craquer par nos responsabilités multiples et distractions numériques addictives, l'oisiveté est rare, précieuse. C'est ce temps non affecté à une activité précise. C'est ce vide, craint par certains, recherché par d'autres. J'en fais partie. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour ne rien faire, surtout chez moi, où il y a toujours quelque chose à ranger, à organiser, un écran que je voudrais ne pas regarder. Alors je m'évade d'abord de chez moi, et quand j'en ai l'occasion, je rejoins les bords de l'Erdre, tout près de ce studio de radio, le quartier qui m'a accueilli lors de mon arrivée à Nantes il y a 8 ans. C'est à cet endroit que ma frénésie s'apaise, assise sur les pavés, dos à la préfecture, à observer les ragondins agiter leur arrière-train. Ou bien, à l'écart de l'agitation, à griffonner sur un banc près de la tortière. Ou encore attablée à la terrasse du bar PMU Saint-Mihiel avec un café, dont les volutes de vapeur sucrée des cigarettes électroniques et l'odeur des croissants de la boulangerie voisine. L'Erdre côté ville est un lieu de passage, un lieu où l'on croise des Nantais qui courent prendre leur tramway, des cyclistes qui slaloment entre les passants, des joggeurs qui trottent le long des rives et s'enfoncent dans la végétation. Tout un essaim d'actifs qui révèle par contraste mon inactivité lorsque je décide de prendre ce temps sans aucun but. L'Erdre nous invite explicitement à nous perdre en rêverie, en observant le pas ralenti des anciens embalades, en suivant du regard une petite embarcation tournant autour de l'île de Versailles, en contemplant le miroir vibrant du ciel qui se reflète à la surface de l'eau. Qu'il est agréable de parvenir, même pour quelques instants, à ne pas consulter son téléphone, à ne pas produire, ne pas organiser mentalement, planifier, à simplement être à l'instant présent. L'inutilité de ces moments est sublime. Elle nous rappelle la vanité de toute existence. C'est un moment d'humilité puissant. C'est aller contre le culte de la productivité, que je promeux toute la semaine, ou à tout le moins mettre ma productivité habituelle au service du temps retrouvé. Oh, je suis pleine de contradictions. D'ailleurs, l'oisiveté, c'est peut-être ceux qui la pratiquent le moins qui en parlent le plus. Comme pour exorciser les excès de nos vies. C'est sans doute mon cas. C'est mon petit moment de résistance. Un rare moment d'héroïsme inutile, mais ô combien nécessaire. La prochaine fois que vous passerez au bord de l'Erdre, s'il vous prend l'envie irrépressible de laisser aller vos pensées, de déposer toute ambition, si vous avez envie de vous asseoir ou de vous arrêter, de stopper votre course, de lâcher votre téléphone, d'ôter vos écouteurs, si vous créez un vide sans le remplir, peut-être penserez-vous à cette chronique oisive. Et vous, quel est votre lieu favori pour ne rien faire ?
Et oui, quel est notre lieu favori pour ne rien faire ? Olivier, tu as un lieu favori pour ne rien faire ?
Eh ben, en fait, les bords de l'Erdre, moi, ça me convient très, très bien. Voilà, c'est par hasard, je suis né pas très loin de là où j'habite, et c'est-à-dire pas très loin des bords de l'Erdre, donc ça me convient tout à fait.
Tu arrives à, comme ça, rester simplement contemplatif et à laisser le fil de l'eau passer, à ne pas faire quelque chose ?
Alors, je me force, parce que ma nature, c'est plutôt de remplir le vide et d'être à la fois très organisé et hyperactif. Donc, c'est un petit peu à travers que je corrige. Et en se forçant, on y arrive quand même, à laisser des moments sans le numérique, notamment, qui est quand même, là aussi, on parlait de monstre tout à l'heure, mais qui est aussi un monstre pour capter nos attentions et nos énergies, notre créativité. Donc, il faut s'en méfier. Mais avec du travail, j'arrive quand même. quand même. Et c'est vrai que la campagne, ça aide. Le week-end, je pars souvent à la campagne. Et ça aide beaucoup quand même de se couper de la ville et pour être tout à fait inactif. Mais pour ça, faut emmener son corps dans la verdure et au milieu de rien. Et là, ça aide à lâcher un petit peu.
Complètement. Quand on est sorti de ce cirque urbain où il y a constamment du bruit, des choses, des voitures, des gens, des cris, des enseignes lumineuses. Et c'est vrai que c'est difficile de ne rien faire dans ce bourdonnement permanent. Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique très agréable. On enchaîne tout de suite sur le choix de musique d'Aurélie justement. Alors c'est un groupe qui s'appelle Astéréotypie. Le titre du morceau c'est « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Et effectivement, c'est un drame. On s'écoute ça tout de suite.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. La vie réelle est agaçante. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme.
Il est 13h43 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou.
Alors l'actualité, évidemment, c'est l'actualité de nos vies, hein, puisque nos vies sont remplies de moments chouettes, de moments bizarres, de moments nourrissants, riches, voilà, qui nous rendent contents, hein, au quotidien. Et c'est le principe de cette rubrique, on discute tous ensemble, c'est un peu le temps libre dans Coup de Foudre, où chacun partage quelque chose qui lui a plu, qui lui a fait du bien récemment dans sa vie. Olivier, est-ce que tu voulais nous partager un moment ?
Alors moi, c'est avec grand plaisir. Alors j'ai bien réfléchi quand on m'a proposé de participer à cette rubrique, à cette chronique. Alors j'aurais pu conseiller une bande dessinée ou une expo de dessin, mais je vais conseiller plutôt un Bon, un lieu, je vais conseiller des lieux. Alors, c'est très paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur mon plaisir d'être à la campagne apaisée le week-end. Mais là, depuis le début de l'année, avec quelques amis, on s'est remis à sortir et à danser. Et voilà, mon truc de fou aujourd'hui, c'est la scène électro à Nantes, qui est extrêmement riche et vivante, que je découvre là depuis le début de l'année dans des lieux. Alors, il y a quoi ? Il y a le Macadam, il y a le Club CO2, enfin, il y a quelques lieux qui en passent, et puis il y en a beaucoup d'autres. Je sais que ce soir, notamment, j'ai des amis qui vont à l'Agronaute. Il y a, je pense, une très bonne soirée électro à l'Agronaute ce soir sur le quai Wilson, là, le quai de Steve. Et donc, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, que j'avais un peu perdu le goût de sortir, le goût de danser. Donc, j'ai redécouvert ça là en 2022, après un premier de l'an, justement, où on a beaucoup dansé, et puis je me suis dit, ça fait vraiment du bien, et pourquoi je m'en suis privé ces dernières années. Donc moi, je trouve que l'électro pour danser, c'est une super, super musique. Moi, ça me procure beaucoup de choses et beaucoup de bonnes vibrations et de belle énergie. Et voilà, c'est mon truc du moment qui me fait du bien. Je trouve dans des environnements en plus avec des gens qui sont chouettes, parce que maintenant les soirées, elles sont notamment dans l'électro très inclusives. Enfin, il y a tout un, comme je les appelle, un peu un peuple queer, avec on peut être un peu comme on est, quel que soit son genre ou la fluidité de son genre. Il y a aussi toute une acceptation de tout le monde dans ces soirées-là. Et ça fait, moi, des fois, je me sens un peu en famille, même s'il y a commencé à avoir un petit gap de génération où là je suis passé du côté des quinquas, puis je me retrouve des fois à danser avec des gens, des jeunes gens qui ont la vingtaine, mais c'est voilà, c'est ok. J'ai pas eu de remarques agistes depuis que je sors.
La danse n'a pas d'âge. Hein.
Et voilà, il y a quelque chose qui est très très inclusif, y compris à ce niveau-là, et voilà.
C'est la merveille, je trouve, de la danse, effectivement, sans se retrouver tous dans ce mouvement, dans ce plaisir de bouger et de ressentir là tout de suite. Et justement, c'est intéressant parce que notre chroniqueuse Aurélie avait fait une chronique sur le macadam, justement, dans le premier épisode, où elle parlait exactement de ce dont tu parles, d'accord, là, ce plaisir, cette joie de se retrouver tous mélangés, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne. Ok, ben allons-y, dansons. Voilà, je suis bien d'accord. Comme disait Nietzsche, je ne croirais qu'en un dieu qui sache danser. Moi, personnellement, mon petit truc de fou ce mois-ci, c'est la découverte d'un bouquin jeunesse. Pour l'anecdote, on est parti à Nice récemment avec Roma pour voir de la famille, une tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Et pendant ces vacances, on s'est baladé en librairie et Roma m'a tendu un livre parce qu'elle apprécie la couverture. Et ce livre, c'est « La cité des livres qui rêvent » de l'auteur Walter Moer. C'est un bouquin qui raconte les aventures de Hildegunst Taimit, un dragon aspirant écrivain, qui va quitter sa bourgade natale pour se rendre à Bouquimbourg, une ville qui tourne uniquement autour des livres. Les maisons sont des livres, les 5000 magasins de la ville sont des librairies, et jour et nuit, la ville est parcourue de fanatiques de lecture. Et en dessous de cette ville, il y a les catacombes, les vestiges d'anciennes civilisations, aujourd'hui très mal famées, où sont planqués des livres très anciens et très rares, et pas mal de dangers, évidemment. Ce livre, c'est une grosse merveille, je dis grosse merveille parce qu'il fait quand même 650 pages, un chant d'amour à la littérature, une bombe d'imagination, d'inventivité, de générosité. Vraiment, ça a été une gourmandise pour moi. Je ne suis pas habitué à être aussi, à complimenter autant un bouquin, mais là, ça fait des années, sincèrement, que je n'avais pas dévoré un livre jeunesse comme ça. Moi, j'ai eu, en le lisant, la certitude d'un truc qui aurait peut-être pu et peut-être même dû avoir un succès vraiment phénoménal comparable à Harry Potter ou les grands du genre. Voilà, donc c'est mon conseil. Jetez-vous sur La Cité des Livres qui Rêvent de Walter Moer, ou offrez-le d'ailleurs, les fêtes approchent, si vous connaissez des lectrices-lecteurs à partir de 10 ans, sachant qu'en plus, la couverture qui nous avait attiré l'œil, c'était le dessin d'un dragon, qui est donc le personnage principal, Hildegunst Taimit. Eh bien, c'est lui qui a fait toutes les illustrations de bouquins, Walter Moer. Et il y en a un paquet, il y en a bien 150 à 200, je pense, dans le bouquin. Et il dessine très bien en plus. Donc voilà, le type sait un peu tout faire. Voilà, c'était mon truc de fou récent. Et puis, écoutez, on va enchaîner tout de suite sur une petite pause musicale. Tu nous as choisi un morceau, Clément, de Luzmila Carpio, qui s'appelle Ukumanta. J'espère que je prononce bien.
Je ne suis pas sûr non plus, mais...
Ukumanta.
J'aurais prononcé la même chose.
Très bien. Et ça, si tu me disais, c'est quelque chose que un son que tu as découvert peut-être ces dernières semaines qui t'a...
Oui, je pense. Je sais même plus exactement. Je l'ai ressorti de mes post-it musicaux pour l'occasion, on va dire. Et, j'ai beaucoup aimé, alors je ne connais pas beaucoup, c'est une artiste bolivienne, une chanteuse qui s'est tournée un peu vers sa culture d'origine, qui est la culture quechua arborigène. Et donc elle chante en quechua. Et ce qui m'a touché beaucoup sur cette musique, c'est la relation entre le jeu de sa voix et de la flûte et des instruments un petit peu traditionnels. Et voilà, je voulais vous faire partager ça.
Ah bah allons-y, on s'écoute ça. Il est 13h51 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian. Ça arrive tout de suite.
Réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection ?
Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Notre pays regorge de paysages incroyables et je ne pouvais pas faire un tour du monde sans parler de la France. Je vous emmène dans le lieu de mon enfance sur la côte atlantique, le Cap Ferret. Pour restituer ce coin de paradis, c'est à l'ouest de Bordeaux, au nord du bassin d'Arcachon, en face de la dune du Pilat. Maintenant bien connu de tous, ce bout de terre est devenu l'Eldorado de beaucoup de personnalités telles que Pascal Obispo, Amélie Mauresmo, Nicolas Canteloup, et bien d'autres. Il est vraiment compliqué d'y partir en vacances car le lieu a connu et connaît une très forte gentrification. Un des facteurs de cet embourgeoisement est le film Les Petits Mouchoirs avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, François Cluzet, que l'on voit partir en vacances, ce qui a suscité un engouement pour le Cap Ferret. Mais il y a quelques années, avant la ruée touristique, ce cordon littoral était beaucoup plus authentique et pittoresque. Ce havre de paix niché entre océan Atlantique et le bassin d'Arcachon offre toutes les possibilités pour passer d'incroyables vacances. On y trouve toutes les activités nautiques, allant du surf à la pêche à pied dans un décor unique. Un des principaux monuments est un phare rouge et blanc surplombant le Cap Ferret. Je vais essayer de vous décrire l'incroyable vue depuis là-haut. Imaginez-vous seul, le bruit du vent et des mouettes vous caresse les oreilles. Que cette même brise saline s'engouffre dans votre nez et vous procure une sensation de bien-être intense. Une fois tous ces sens éveillés, vous découvrez une vue panoramique sur la dune du Pilat, les cabanes chanquées, le banc d'Arguin, les pinasses, l'île aux oiseaux, l'immensité de l'océan et les forêts de pins. J'ai eu la chance d'y passer toutes les vacances de mon enfance, dans la maison de mes grands-parents, et j'en ai un souvenir inoubliable. Toutes les après-midi, mes grands-parents nous emmenaient à la plage avec ma sœur et ma cousine, au même bout, la plage du côté bassin d'Arcachon. Le matin, nous allions au marché et je peux vous assurer que les produits vendus sont frais et pêchés le matin. Je me souviens notamment des sols grillés préparés par ma grand-mère que nous mangeons très souvent. Je n'ai jamais retrouvé cette même saveur nulle part ailleurs. Vous l'aurez compris, le Cap Ferré me procure beaucoup de nostalgie et d'émotion. Pour tous les amoureux de la nature, de la mer, de l'authenticité des paysages, allez découvrir ce lieu unique aux intersaisons, tant que c'est encore possible, car d'ici quelques années, avec la montée des eaux, il ne restera rien de cette terre paradisiaque. J'espère que mon coup de cœur pour le Cap Ferré suscitera aussi votre intérêt. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans un mois pour la découverte d'une autre partie du monde.
Et non, malheureusement, on ne se retrouvera pas dans un mois, Brian, puisque pour des raisons professionnelles, il ne pourra pas continuer dans Coup de Foudre. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une autre chroniqueuse qui le remplacera le mois prochain. En tout cas, merci infiniment, Brian, d'avoir fait partie de l'aventure pendant la première saison avec nous. C'était un régal de t'avoir. Merci pour ces belles chroniques et que ta passion pour le voyage t'emmène, je l'espère, aux quatre coins du monde. On va d'ailleurs passer tout de suite une chanson que Brian affectionne, qui nous avait conseillé la saison dernière, qui s'appelle Un león no se rinde, donc un lion ne se rend pas. Et c'est d'un artiste qui s'appelle Jaricio.
Yeah, 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 gotta make them know it is Jaricio. Oh, 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 yeah, oh, yo, Zaya! Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. No causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. El que lo siente lo sabe, cruzando la montaña o el valle. Esa es la clave, él nos da la llave que cualquier puerta abre. Babilán trata de ponerme miserable, pero yo soy un soldado honorable. Soy un recluta de ya ame, así que nunca traten de pararme. Porque un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme, un león no se rinde. Así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Rastaman con siempre will burn up the fire. Voy como guerrero por media batalla. Siempre valiente y lleno de agalla. Rasta no se rinde, Rasta no tira la toalla. Nunca podrán decir que yo soy un canalla. Yo reparto la buena vibra por donde vaya. No voy a parar hasta ganarme la medalla. Ya no se man a real warrior. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme.
Sólido como una roca,
yeah, yeah.
Como el hierro,
tengo la bendición de Elise Lassie, el primero. Por eso Babilán nunca engaña mi cerebro. Yo soy humilde y también soy sincero. No pueden tirar mi vida por el basurero. Yo soy tal como un guerrero. A eso me refiero cuando digo: un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. El que lo siente lo sabe, cruzando la montaña o el valle. Chalo, esa es la clave, él nos da la llave que cualquier puerta abre. Babilán trata de ponerme miserable, pero yo soy un soldado honorable. Soy un recluta de ya ame, así que nunca traten de pararme. Porque un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Yeah, yeah. Side the fire, liar. Zion production.
Rasta no se rinde.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Olivier Texier d'être venu nous rendre visite. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ton Instagram. Donc, l'Instagram d'Olivier, c'est otexgrotesque, O-T-E-X-G-R-O-T-E-S-K. Voilà, vous pourrez suivre dessus. Tu fais paraître peut-être des dessins de temps en temps, c'est
oui,
ça
oui, oui, je mets tout, en gros, entre guillemets, mon actualité, c'est quand je vais dans des rencontres publiques où je fais des performances, et puis mes parutions BD, et puis des fois, je mets des strips, des dessins. Il n'est pas très fourni en ce moment, mais c'est par période.
Très bien, eh ben, allez-y, allez jeter un œil et même les deux. Et moi, je vous donne rendez-vous le 3 décembre pour le troisième épisode de cette saison 2 de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.